Bonjour à tous, vous êtes bien sur Bac FM 106.1, la radio lycéenne. Nous sommes
Coro,
Jeanne
et Joseph, élèves de première du lycée Raoul Follereau de Nevers. Et nous avons le privilège aujourd'hui d'interviewer Monsieur François Errant, professeur au Collège de France, spécialiste des migrations. Monsieur Errant, bonjour.
Bonjour.
Actuellement, la question migratoire est au cœur de bien des débats politiques et économiques. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres concernant les migrations, clandestines ou pas, à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne et à l'échelle française?
Alors, à l'échelle mondiale, ce sont les Nations Unies, c'est la division de la population des Nations Unies qui compile des données de migratoires du monde entier à partir des recensements et des enquêtes. Et il apparaît que 4% à peu près de la population mondiale vit en dehors de son pays de naissance, vit durablement dans un pays autre que son pays de naissance. Ça peut paraître peu, 4%, parce qu'on va dire 96% des gens n'ont jamais migré, mais c'est parce que les très gros pays, les géants démographiques, que sont la Chine, l'Inde, mais aussi les États-Unis, le Nigeria, l'Indonésie, etc., ont très très peu d'émigration. Quand les gens veulent améliorer leur sort dans ces pays-là, ils font une migration interne. Ils ne partent pas à l'étranger. Donc ça diminue très fortement la moyenne mondiale. Quand vous allez dans des pays qui sont de taille plus modeste, là déjà le taux d'émigration est de 6, 7, 8%. Et puis vous avez certains pays en guerre qui sont à parfois 30, 40%. Les Palestiniens, avant même les événements actuels, plus de la moitié des Palestiniens vivent dans un pays étranger. Donc voilà, c'est 4... Alors ça augmente légèrement, c'est-à-dire que depuis 2000, c'est un bon point de départ, le nombre des migrants dans le monde entier a augmenté de 74%. Donc c'est une tendance lourde qu'on trouve dans tout le monde occidental, c'est pas propre à la France. En France, l'augmentation est seulement de 50%, et on verra un peu le problème que ça pose. Il y a une progression de la migration, elle est forte, elle est sensible, elle est perçue par la population, mais nous sommes plutôt au bas du tableau quand on regarde l'intensité de cette progression. Et puis, dans l'ensemble du monde occidental, pour faire vite, l'Union européenne, plus le Royaume-Uni, plus des pays associés comme... la Norvège, la Suisse, etc., eh bien, la migration depuis l'an 2000, le nombre des immigrés a augmenté de 105%, c'est-à-dire plus qu'un doublement. Donc vous voyez, il y a une poussée, voilà, c'est une tendance lourde qui est... Alors pourquoi? On le verra peut-être dans vos prochaines questions.
Quand on étudie les flux migratoires, est-il possible d'établir un profil type du migrant en fonction de l'âge, de l'origine, du genre, des motivations et d'autres caractéristiques?
Alors oui, c'est possible, notamment parce que les sources qu'on a, ce sont des recensements, et dans les recensements, vous avez le métier, le diplôme, la charge de famille, il y a pas mal de variables qui nous permettent d'expliquer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la migration, c'est quelque chose de très sélectif. D'abord, ce ne sont pas les pays les plus pauvres ou les personnes les plus pauvres qui migrent le plus. Quand il y a des guerres ou des conflits, ces gens-là, en général, vont juste dans les pays voisins, se réfugier, ou alors sont même des déplacés internes, ils changent de région à l'intérieur du pays. Les pays où il y a les plus forts taux d'émigration, ce sont les pays qui sont à mi-chemin de l'échelle du développement, qui sont à 5 ou 6 sur une échelle à 10, si vous voulez. Le Mexique, pendant longtemps, c'était ça. Mais le Maghreb est à 5 ou 6. Vous avez tous les pays des Balkans, 20% de la population des pays des Balkans et anciennement communistes vivent à l'étranger. Le Caucase aussi, c'est pour ça qu'on a pas mal de Géorgiens ou d'Arméniens qui sont immigrés. Mais vous avez... Donc, les pays les plus pauvres, comme le Niger, par exemple, le Tchad, eh bien, n'ont pas les moyens de migrer. Donc, il ne suffit pas d'avoir l'aspiration à migrer. Il faut aussi avoir un peu de ressources pour pouvoir le faire. Et c'est ça, le problème. Et du coup, les gens qui migrent le plus loin, c'est plutôt ceux qui sont déjà alphabétisés, qui ont même un niveau d'instruction relativement élevé, qui ont peu de charges de famille. Ils auront leurs enfants une fois la frontière franchie. Voilà, c'est les... Et les motivations, c'est fuir les conflits, mais c'est aussi améliorer son sort, notamment pour ses enfants. Il y a une série de motivations familiales, de refuge, économiques, qui sont assez structurés maintenant dans des catégories de titres de séjour qui sont à peu près les mêmes partout dans le monde entier et notamment en Europe.
La question migratoire est l'objet de débats virulents. Dans plusieurs pays, certains parlent de submersion migratoire, voire de grand remplacement. On a l'exemple de la politique très dure que Donald Trump mène aux États-Unis en s'appuyant sur l'ICE. Quel regard jetez-vous sur ces évolutions ?
Alors oui, il y a une hantise de l'invasion migratoire. Et il faut voir que toutes ces formules sont assez synonymes. Il y a la métaphore aquatique, submersion, tsunami, inondation. Il y a la métaphore guerrière, invasion, colonisation à rebours. Le grand remplacement, c'est encore une autre formule. Toutes ces formules sont un peu équivalentes. Il y a des versions assez chic de la hantise du grand remplacement. Par exemple, le droit à la continuité historique, c'est la même chose. Le droit à une société non remplacée. Hein. Donc, elle est très ancienne, cette hantise, mais c'est vrai que c'est en 2010 que Renaud Camus, donc un écrivain très marqué à l'extrême droite, m'a inventé cette formule. Si vous lisez les discours de Jean-Marie Le Pen des années 80-90, ou la façon dont il réagit au grand rapport de l'ONU sur les migrations de remplacement, il y a déjà tout le thème de la submersion, toute la peur de voir la civilisation chrétienne remplacée par une civilisation musulmane parce que les immigrés seraient trop féconds, auraient un afflux beaucoup trop important et difficile à maîtriser. Voilà. Alors, Donald Trump, effectivement, c'est une version très dure de ça, mais c'est un paradoxe quand on compare les États-Unis au reste de l'Europe. Bien, ça fait longtemps que les États-Unis ne sont plus un grand pays d'immigration. Quand on regarde à population égale, en proportion, pour 10 000 habitants par exemple, c'est une méthode qui est absolument nécessaire quand on compare des pays de taille inégale, c'est pour ça que les États-Unis n'acceptent quasiment plus de migration de travail venant de l'extérieur, un peu de migration familiale, quasiment plus de refuges, et c'était déjà le cas au temps d'Obama. Hein. Sous Obama déjà, l'immigration des États-Unis était très faible, elle avait un peu augmenté sous Biden, et donc le problème... Quand on ferme les frontières comme ça, on crée un effet de nasse et du coup on a beaucoup d'irréguliers sur place. Et puis il n'y a plus de programme de régularisation depuis Reagan. Donc du coup, ce que chasse l'ICE, qui est une police fédérale qui existait déjà sous Obama, hein, il faut le rappeler, qui a simplement beaucoup plus de moyens maintenant. C'est de toutes les agences des États-Unis, c'est celle qui a le plus de moyens. À elle seule, l'ICE a autant de moyens que toutes les autres agences de l'État réunies. C'est un phénomène tout à fait extraordinaire. Eh bien, il chasse surtout les gens qui... sont en situation irrégulière, ou même Biden avait créé une catégorie assez spéciale, c'est ce qu'on appelait le parole programme, c'est-à-dire un programme qui permettait aux migrants de s'installer aux États-Unis sous condition, sous parole, enfin bon, pour quatre pays en grande difficulté. CHNV, c'est-à-dire Cuba, Nicaragua, Haïti, Venezuela, 1,6 million à peu près de personnes ont été autorisées par Biden. Et dans les statistiques, elles sont comptées comme irrégulières parce qu'on leur a promis de les régulariser si elles satisfont un contrôle de sécurité et si elles arrivent à démontrer, ces personnes, qu'elles sont hébergées par des proches qui vont pouvoir les financer sans prélever sur le budget de l'État. Eh bien, lorsque Trump est arrivé, dès janvier 2025, il a écrit à tous ces gens-là en leur disant « c'est fini, rentrez chez vous hein, ». Donc, rentrez à Cuba, rentrez au Nicaragua, rentrez à Haïti, au Venezuela. Évidemment, ces gens-là étaient en grande difficulté, ne sont pas rentrés. Et c'est eux que l'ICE chasse en priorité.
Dans le même temps, on apprend qu'en Italie, Giorgia Meloni, qui a été élue sur un programme plutôt hostile aux migrants, a signé en 2025 un décret autorisant 500 000 entrées de migrants extra-communautaires dans son pays entre 2026 et 2028. Des pays comme ceux de l'Union européenne peuvent-ils se passer des migrants ?
Alors, l'Italie, oui, c'est un cas très particulier. Giorgia Meloni a cédé aux demandes des employeurs. Il y a une fédération patronale très puissante en Italie, beaucoup de petites entreprises, qui l'a pressé de laisser entrer. Alors, 500 000, il y a eu en fait deux décrets, ce qu'on appelle le décret sur les flux, il décreto flussi, qui existe depuis longtemps en Italie, vers le mois de décembre en général, on dit, ben voilà, par région et par branche de métier, on va accepter tant de personnes. Hein. Très difficile hein, de programmer les besoins, mais enfin bon. Elle l'a fait deux fois, elle l'avait déjà fait pour les années 2024-25-26, et 500 000, mais sur les 500 000, il y a 40%, 60% de permanents et 40% de travailleurs temporaires, hein, dont l'agriculture, le tourisme notamment. Mais alors, le problème, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'elle a voulu contrôler de très très près le fonctionnement de ce système. Et du coup, il y a quatre secteurs qui sont autorisés, l'agriculture, le tourisme, le soin aux personnes et puis catégorie autres. Et les employeurs qui cherchent à recruter des migrants ont une seule journée, ce qu'on appelle le click day, une seule journée pour déposer leur demande et retenir, choisir parmi les candidats qui se présentent. Et c'est pas possible, ils n'y arrivent pas, et donc il y a un engorgement, un effet d'engorgement terrible, et les syndicats, les associations patronales, mais également les associations humanitaires qui suivent ce dossier, ont montré qu'il y a à peu près un quart seulement des contrats qui ont pourtant été validés par l'État, mais qui seront finalement signés. Donc oui, il y a à la fois la volonté d'obéir aux demandes des employeurs, et la volonté qu'a l'État quand même de contrôler bureaucratiquement le système. Et ces deux demandes entrent en collision. Mais effectivement, c'est... Du coup, l'Italie s'est beaucoup polarisée. La presse, les médias, mais c'est la même chose en Angleterre, sur les traversées de bateaux, de petites embarcations, les disembarqués, comme on dit, qui viennent de Libye, qui viennent de Tunisie, dont on a réussi à réduire le nombre hein, grâce à une flotte chargée de les arrêter. Mais en fait, c'est très très minoritaire. C'est quelques dizaines de milliers de personnes par rapport aux 500 000 qui sont projetées. Donc on a eu des dirigeants européens qui ont rendu visite à Giorgia Meloni, notamment les Britanniques, mais aussi les Français. Comment faites-vous pour arrêter les bateaux, etc. Donc, mais dans le même temps, effectivement, il y avait cet étrange programme des 500 000 qui pour l'instant... voilà. Donc tout ça, ça donne une idée de la contradiction. Alors vous demandez, est-ce que les pays comme ceux de l'Union européenne peuvent se passer des migrants ? Ben, la réponse est non. Hein. Aucun pays ne peut se passer de migrants, en tout cas dans l'Europe de l'Ouest, parce que vous avez toute une partie de l'Europe qui est l'Europe anciennement, qui faisait partie du bloc socialiste ou communiste, comme vous voulez, qui, elle, n'a jamais été accoutumée à l'immigration des pays du Sud, qui n'a jamais utilisé l'immigration du Sud pour sa reconstruction après la guerre, et qui a un peu isolé les peuples. Le communisme a isolé les peuples pendant une quarantaine d'années. Donc, dans ces pays-là, il y a très peu de migrants, et en même temps, ce sont des pays qui sont en très grande difficulté. Je vous ai dit déjà tout à l'heure que les pays des Balkans ont une énorme émigration. Prenez la Hongrie. Ce n'est pas la géniale politique de M. Orban qui a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas de migrants. Hein. Marine Le Pen était allée à Budapest et a félicité Orban, bravo d'avoir réussi à empêcher l'immigration dans votre beau pays, je me souviens de cette phrase. Non, c'est qu'en fait, il y a une migration à l'intérieur de l'Europe du sud vers le nord et de l'est vers l'ouest. Et donc, toute l'Europe centrale, des pays baltes à la Slovénie, en passant par la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, etc., ce sont des pays d'émigration. Hein. Ils ont beaucoup migré vers l'Angleterre, beaucoup migré vers l'Allemagne. L'Angleterre les a chassés avec le Brexit, car le Brexit, étrangement, a été dirigé contre l'Europe centrale. Et depuis le Brexit, la Grande-Bretagne a fait une chose incroyable. Ils ont plus que compensé les pertes du Brexit par un appel à la migration de leurs anciennes colonies, à une migration de travail énorme en Grande-Bretagne qui vient de l'Inde, du Pakistan, du Nigeria, enfin de leur, ce qu'on appelle le nouveau Commonwealth, donc parce qu'ils en ont besoin pour le fonctionnement de leur économie. Donc nous, c'est pareil, nous en avons besoin et on l'a vu lors de la pandémie de Covid. Par exemple, les producteurs de fruits corses ont supplié l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder le droit de organiser des vols aériens pour que les cueilleurs de fruits venus du Maghreb puissent sauver la récolte. Donc vous voyez que oui, les besoins sont tout à fait clairs. Des besoins à tous les niveaux de qualification, je voudrais dire. bien sûr dans l'agriculture, dans le tourisme, dans les travaux publics. Le BTP ne pourrait pas fonctionner sans immigrés. Mais aussi à des niveaux de qualification plus élevés, notamment dans les hôpitaux, dans tout le système de soins, le système de sécurité, de surveillance, etc.
Beaucoup de personnes qui migrent vers l'Europe souhaitent surtout aller au Royaume-Uni et se retrouvent bloquées dans la région de Calais. Pouvez-vous rappeler à nos auditeurs ce qu'était cette jungle et nous expliquer pourquoi certains pays de l'Union européenne sont plus attractifs que d'autres ?
Alors, c'est une bonne question. On fait quelque chose d'assez étonnant dans la région du Pas-de-Calais face à la Manche. Nous faisons tout pour retenir sur notre sol des gens qui veulent aller en Angleterre. Ce qui est quand même étrange, parce que la politique migratoire, en principe, dans la philosophie actuelle, consiste plutôt à en avoir moins que d'en avoir plus. Donc on fait tout pour les retenir sur notre sol. Pourquoi ? Mais parce que nous sommes les sous-traitants de la politique migratoire de contrôle des frontières des Britanniques. Nous aimerions que l'Italie fasse la même chose pour nous. L'Italie fait en sorte que la Tunisie ou la Libye sous-traite aussi le contrôle des frontières, etc. Donc il y a une espèce de défausse en cascade qui va, comme par hasard, du nord vers le sud et qui est très, très impressionnante. Alors pourquoi l'Angleterre est-elle si attractive ? Ben, d'abord parce que l'Angleterre parle anglais et là c'est quelque chose que les économistes ont bien montré. Les pays anglophones ont un marché beaucoup plus important. Un des défauts de la France n'est pas très attractive, hein, je pourrais revenir là-dessus. Mais comparé à sa population, vu sa population, vu son PIB, nous sommes un pays très peu attractif. Nous n'arrivons même pas à attirer les Européens, les ressortissants de l'Union européenne, qui pourtant ont un droit de libre installation chez nous. Ils peuvent, je ne sais pas, un Belge, un Tchèque peut s'installer en France sans même un visa de 3 mois. Et bien en fait, les Européens qui sont libres de s'installer chez nous, ils ne viennent pas, très très peu. L'Allemagne, par exemple, proportionnellement sur population, l'Autriche, les Pays-Bas sont 4 à 5 fois plus attractifs pour les Européens que nous. Et on retrouve ces différences d'attractivité, pas aussi fortes, mais pour également les non-Européens. Donc, une des raisons de notre faible attractivité, c'est que nous ne sommes pas suffisamment anglophones, et ça dissuade, ça dissuade pas mal de candidats au séjour.
Merci François Héran d'avoir répondu à ces premières questions. Nous nous retrouverons juste après la pause musicale.
Merci.
Je suis né d'une mer caspienne et de terre inconnue, aux côtés de la mauvaise graine. Voici ce que j'ai vu, les parents à la chaîne, le cambouis sous les ongles. On a dérivé jusqu'ici, on a chaviré sur le monde. Une main devant, une main derrière, c'est là qu'on atterrit. Faire la queue au débarcadère, désormais tout est gris. On n'a même plus la haine, puisqu'on est déjà mort. On n'a que des rengaines avant des stigmates sur nos corps. Brûlés, alors épargnez-moi. On n'a que ce qu'on ne mérite pas.
Quicker, get up, no pain, no gain.
On n'a pas l'embarras du choix.
Get up, raise up, it's not too late.
On n'a que ce qu'on ne mérite pas.
Quicker, get up, no pain, no gain.
On n'a pas l'embarras du choix.
Get up, raise up, it's not too late.
Take a life for granted and disenchanted with blinders on. Taking chances, the chances, my fucking mind is gone. History lies and mystery dies, the veil lifted. I can't abide continuous lies that they afflicted. Tears in your eyes, you fall to the ground and break down. Criminals rise, political dreams to take down. Food on my plate, roof over my head, to feed mine. You take it from me, I'm taking your life, I need mine. A system broken and we're hoping for some kind of change. Instead of change, they causing pain, we hope in vain. Stay in your lane and shut your mouth, they whisper silence. The kind of science that activates the fear and violence.
On n'a que ce qu'on ne mérite pas.
Wake up, get up, no pain, no gain.
On n'a pas l'embarras du choix.
Get up, raise up, it's not too late.
On n'a que ce qu'on ne mérite pas.
Wake up,
du choix.
Get up, raise up, it's not too late.
On n'a que ce qu'on ne mérite pas.
Wake up, get up, no pain, no gain.
On n'a pas l'embarras du choix.
Get up, raise up, it's not too late.
On n'a que ce qu'on ne mérite pas.
Wake up, get up, no pain, no gain.
On n'a pas l'embarras du choix.
Vous êtes de retour sur Bac FM avec Coro, Jeanne et Joseph pour la suite de l'interview de M. François Errand, professeur au Collège de France, spécialiste des migrations. On s'aperçoit que les pays qui essaient de fermer leurs frontières n'y arrivent pas bien. Ne pourrait-on pas imaginer un monde sans frontières où les êtres humains pourraient circuler librement ?
Alors, c'est vrai que... Alors, prenons le cas de l'Europe. Pour résumer les choses, l'Europe n'est ni une passoire, ni une forteresse. C'est les deux métaphores qui sont régulièrement utilisées. Les frontières, c'est quand même des membranes qui filtrent le passage. Il y a quand même un contrôle des frontières important. D'ailleurs, quand on regarde l'évolution des titres de séjour depuis une quinzaine d'années à peu près, on s'aperçoit que la migration familiale est contenue, elle n'est pas plus importante qu'autrefois, la même tendance un peu à baisser. Par contre, la migration estudiantine, elle, augmente très fortement. Et ça, c'est en partie parce que ce sont les présidents d'université qui, d'une certaine manière, donnent l'autorisation. Il y a la migration de refuge a augmenté depuis 2015-2016, depuis la crise, mais ça, c'est la moindre des choses. Et quand j'entends dire « mais il suffit de les arrêter, de ne pas leur donner le titre », ben non, il y a des lois, il y a un droit international. Pour dire les choses rapidement, vous avez trois ou quatre types de politiques migratoires. Vous avez une politique migratoire démographique. On a besoin de rééquilibrer la pyramide des âges, on fait venir des migrants. Ça n'a pas beaucoup existé dans notre histoire. Il y a eu en 1927 une loi de naturalisation qui était née un peu de cette inquiétude démographique et qui était la plus libérale de toutes les lois sur la naturalisation, 1927. 4 ans de séjour suffisaient et on demandait à ce que ce soit des familles avec des enfants. On envisageait une migration de peuplement. Au lendemain de la guerre, Alfred Sauvy, le fondateur de l'INEL, l'Institut d'études démographiques, ne connaît pas encore l'ampleur du baby-boom et il fait un plan, fin 45, début 46, en disant « mais pour régulariser la pyramide des âges, il faut faire venir quelque chose comme 3 millions, 4 millions de migrants, y compris les familles. » Bon, puis finalement, le baby-boom viendra et fera qu'il y aura à la fois un boom migratoire et un boom des naissances. Mais c'est tout. La politique la plus fréquente, c'est le manque de main-d'œuvre, le manque de bras, comme on disait au XIXe siècle. On fait venir des migrants pour des besoins économiques. Mais ça, c'est la politique. C'est deux formes de politique utilitariste, politique démographique des migrations et politique économique. Et puis, il y a une troisième forme qui a pris énormément d'importance à partir des années 60-70. C'est une politique en quelque sorte juridique. C'est-à-dire que la majorité des personnes qui entrent en France entrent parce qu'elles en ont le droit. Et alors, c'est ça qui est pris pour cible actuellement par une partie des politiques. Le droit, il y a la Convention de Genève pour les réfugiés, il y a la protection subsidiaire qui prévoit le cas des personnes qui ne peuvent plus vivre dans leur pays à cause d'une situation de conflit, d'extrême violence. Vous avez aussi... le droit de faire des études, c'est pas vraiment un droit, mais c'est quasiment reconnu. Le droit de faire des études dans une bonne université à l'étranger est un quasi-droit. Le droit au regroupement familial, qui n'est pas automatique, contrairement à ce qu'on dit parfois, mais qui fait que si vous êtes depuis des années éloigné de votre famille, il serait disproportionné, dit le droit européen, de refuser le regroupement familial. Donc, la majorité des personnes qui entrent en France entrent parce qu'elles en ont le droit. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus vraiment de corrélation entre la situation économique et les flux migratoires. Avant, c'était le cas. Par exemple, on a fait venir des Polonais après la Première Guerre mondiale pour les mines, les usines textiles, parce qu'on en avait des besoins de reconstruction énormes. Et puis, il y a eu la crise de 29, la crise des années 30. Et là, on a chassé, manu militari, à peu près la moitié des Polonais qu'on avait fait venir. peut-être quelque chose comme, on ne sait pas trop, 250 000 sur les 500 000 qui étaient venus. Hein. Et donc, c'était les employeurs pouvaient renvoyer les gens et la police aidait les employeurs à mettre les gens dans les trains et à les renvoyer. Et de toute notre histoire, la minorité qui a été la plus maltraitée, c'est les Polonais, puisqu'on en a renvoyé la moitié chez eux. Hein. Aujourd'hui, ça n'est plus possible parce que le droit international ne permet pas de renvoyer comme ça la moitié d'une minorité. Voilà un peu les... Et puis, vous avez une dernière politique qui est celle dont rêvent beaucoup de gens, qui n'est ni démographique, ni économique, ni juridique, mais qui est identitaire, qui consisterait à dire ben, on va prendre uniquement les désirables et on va rejeter les indésirables. Hein. Et désirable, indésirable est une expression. Le mot indésirable a été créé dans les années 20, dans les années 30, pour désigner les personnes dont on ne voulait pas aux frontières. C'est ça l'origine du mot indésirable, et c'est un peu vers ça que voudrait revenir une partie des programmes politiques en cours.
Et justement, pour rebondir sur votre réponse, on remarque que certains responsables politiques veulent une immigration choisie.
Oui, alors, pardon, j'ai pas. Est-ce qu'on peut imaginer un monde sans frontières ? C'était une question importante. Il y a pas mal d'auteurs qui ont dit ça, mais qu'est-ce qui se passerait si il y avait... Alors, c'était l'époque où il y avait aussi... Le marché était libre, on n'avait pas le retour des tarifs, comme on dit, ou des droits de douane. Mais, et donc, un certain nombre d'économistes très, très libéraux disaient, ben, finalement, la libre circulation des hommes, sur le modèle de libre circulation des marchandises, ça va encore améliorer le PIB, la croissance mondiale. Il y aura moins de morts, parce qu'on a quand même 32 000 morts en Méditerranée depuis qu'on fait le décompte, hein, depuis 2014. Voilà. Mais cette option, ce scénario de sans frontières a été étudié notamment par tout un groupe de travail de l'UNESCO avec des chercheurs de tous les continents. Et on s'aperçoit qu'en fait, ce serait une affaire extrêmement compliquée. On ne maîtrise pas tous les paramètres. On ne sait pas ce qui se passerait si vraiment toutes les frontières étaient ouvertes. Alors, il est sûr que la misère du monde ne pourrait quand même pas s'installer chez nous, puisque, je vous l'ai dit, il faut des moyens. Il y aurait peut-être plus de circulation et en même temps plus de retour, parce qu'un des problèmes, et c'est ça que les défenseurs de l'hospitalité inconditionnelle de sans frontières, leur argument le plus fort consiste à dire que quand on ferme les frontières, les gens qui ont déjà migré ne repartent plus parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir revenir. C'est un effet de nasse. Et donc, il faudrait avoir plutôt un système de va-et-vient, de libre circulation, qui pourrait être régulé. Voilà. En tout cas, dans la situation actuelle, quand on dit l'immigration est hors contrôle, c'est exponentiel, c'est explosif, c'est, non, rien de tout ça, statistiquement, c'est faux. Il y a des augmentations qui sont très linéaires, très continues. La migration n'est pas jugulée, il y a des entrées évidemment irrégulières et clandestines, et il faut du temps pour régulariser. Elle n'est pas jugulée, mais elle est quand même régulée.
Certains responsables politiques veulent une immigration choisie. Qu'entendent-ils par là et cela vous semble-t-il réalisable ?
Alors, immigration choisie plutôt qu'immigration subie, hein, vous vous souvenez, c'était le slogan de Nicolas Sarkozy, donc quand il était ministre de l'Intérieur, vers 2006, pardon, et ça n'a pas marché. C'était l'idée de ne prendre que des travailleurs du haut niveau, hautement qualifiés. Alors il faut savoir que l'immigration de travail, hein, l'entrée directe des travailleurs a été interdite en France en 1974 à cause du choc pétrolier et de l'arrivée du chômage de masse. On a fait la même chose que l'Allemagne un an auparavant. Et c'est Nicolas Sarkozy qui, en 2006, a réintroduit l'introduction directe des travailleurs, mais à toute petite dose. Et il l'a fait d'abord, effectivement, pour les chefs d'entreprise innovantes, les start-up notamment, qui étaient favorisés dans ce domaine. Et alors, Macron a changé les choses. On n'a pas beaucoup parlé, d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas fait vraiment de publicité là-dessus, mais l'OCDE a beaucoup souligné ce résultat. On a étendu ensuite ce privilège à tous les salariés des entreprises innovantes et pas seulement leurs dirigeants. Hein. Et à la demande, d'ailleurs, des entreprises en question. Et donc, on a peu à peu une immigration de travail qui a progressé, mais en fait, on a toujours des besoins dans les secteurs non qualifiés. que ce soit dans l'agriculture, dans la surveillance, dans les soins aux personnes, dans le nettoyage, etc. Donc l'idée qu'on pourrait prendre les meilleurs et se... Voilà. Alors il y a un pays qui fait ça, quand même, c'est le Canada. Le Canada a ce qu'on appelle un système à points. C'est-à-dire que le Parlement dit, voilà, il y a 100 points possibles à gagner. Si vous arrivez à en obtenir 80, vous êtes éligible, vous pouvez migrer chez nous. Et qu'est-ce que c'est que ces points? Ben, par exemple, vous avez 20 points si vous savez parler l'anglais et le français, 20 points si vous avez un diplôme du supérieur, il faut être ni trop jeune ni trop âgé, moi je ne suis plus éligible au Canada, etc. Et donc c'est une espèce de concours, qui est un concours de capital humain. Il faut avoir des connaissances et, voilà. Et aussi des années d'expérience professionnelle. Ce sont les 4 ou 5 critères qui sont utilisés dans ce... Mais en même temps, les provinces, ça c'était un système fédéral, les provinces du Canada, on réussit à imposer un peu un système de métier en tension en disant, mais tous ces gens très diplômés qui viennent ensuite, ils se réfugient dans les grandes villes, MTV, Montréal, Toronto, Vancouver, et ils ne viennent pas dans la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, le Montana, etc. Donc, ces provinces, comme on dit là-bas, ont essayé de trouver un compromis, ils l'ont trouvé avec l'État fédéral, et donc c'est un mélange de concours, de capital humain, et de besoins des entreprises qui est identifiée par des missions spéciales. Donc, vous voyez qu'une immigration purement choisie, ça ne marche pas, parce qu'il y a des besoins qui vont au-delà de la sélection des plus diplômés ou des plus expérimentés.
Le contexte géopolitique global se tend fortement et devient de plus en plus violent. Quel effet cela peut-il avoir sur les migrations ?
Eh bien, un double effet, c'est-à-dire que, bien sûr, les conflits déclenchent des exodes de population. Vous prenez la Syrie, il y a eu 7 millions de Syriens déplacés pendant toute la guerre civile, et 7 autres qui sont des déplacés internes, donc, et 7 autres qui sont des déplacés externes, c'est-à-dire des gens qui ont dû quitter leur pays. Et sur ces 7 millions de déplacés externes, l'immense majorité, 80%, sont allés se réfugier, les plus pauvres en général, sont allés se réfugier dans les pays limitrophes, la Turquie essentiellement, mais aussi la Jordanie et le Liban. Et quand vous regardez les chiffres, par exemple, la France a accueilli à peu près 40 000 Syriens depuis le début de la guerre civile syrienne, la Turquie 4 millions. C'est-à-dire qu'il y a 100 fois plus de réfugiés syriens en Turquie qu'en France. Et donc, les 20% de déplacés externes qui ont réussi à déposer une demande dans l'Union européenne ou en Europe, et dont nous avons pris une partie, nous avons pris 5% de ces 20%, bon, c'est pas grand-chose. Donc, on n'a pas subi de très gros effets de tout ça. Mais en même temps, l'autre impact des guerres, c'est que les transports sont tellement bloqués que les gens ne peuvent même plus se déplacer. C'est toujours cet effet de nasse dont je parle. Donc, oui, alors, au total, quand vous regardez l'ensemble des réfugiés du monde entier, à peu près 80% de tous les réfugiés du monde entier viennent de 8 pays, pas plus. Il y a la Syrie, il y a le Soudan, il y a la RDC, c'est-à-dire le Congo, il y a quelques pays comme ça, et finalement l'idéal ce serait de pouvoir attaquer de front et résoudre les problèmes qu'il y a dans ces pays-là, mais c'est pas à coup de bombe qu'on y arrivera manifestement.
Les dirigeants de l'Union européenne ont décidé de durcir en décembre 2025 leur politique migratoire. Il s'agit en particulier de créer des hubs de retour. Qu'en pensez-vous ?
Oui, alors vous faites allusion au pacte européen des migrations, qui a plusieurs développements depuis. Et il a été ce pacte très très longuement négocié, 7-8 ans de négociation si je me souviens bien. Et puis finalement on s'est dépêché de le conclure avant les élections européennes. C'est un système qui a beaucoup déçu parce que on voulait dans un premier temps, et le Parlement européen avait même voté une motion contre ce qu'on appelle le système de Dublin, c'est-à-dire que les migrants qui arrivent en Europe par un premier pays, doivent avoir leur dossier traité par ce pays. Et s'ils vont dans un autre pays, ils sont renvoyés vers le premier pays où ils ont été enregistrés et ils sont dublinés, comme on dit. Et tout le monde disait que le dublinage, ça ne marchait pas. Il y avait autant de dublinés de la France vers l'Allemagne que de dublinés de l'Allemagne vers la France. Au bout de 3 mois, quand on n'arrivait pas à les renvoyer, ils avaient de nouveau le droit de présenter une demande. Enfin, tout ça coûtait énormément d'argent pour pas grand-chose. Donc, on s'est dit, plutôt que de se défausser sur les pays qui sont en première ligne, parce que quand on regarde... En proportion de leur population, c'est des pays comme Chypre, comme Malte, comme la Grèce, comme l'Italie du Sud qui ont le plus de migrants. Et donc, du coup, le système de Dublin, ça permettait aux grands pays continentaux ou aux pays périphériques, comme la France. La France, il ne faut pas l'oublier, c'est un pays périphérique. Donc, ça permettait à ces pays-là de se défausser sur les pays en première ligne. Donc, on s'est dit, il faut qu'il y ait un système de juste répartition des migrants ou même des demandeurs de séjour entre tous les pays européens. Et quelle est la clé de répartition la plus juste? Eh bien, il faut tenir compte de la population, il faut tenir compte de la richesse du pays, c'est-à-dire de son PIB. On peut tenir compte de l'inverse du taux de chômage, du nombre de dossiers déjà traités. Enfin, il y avait des clés de répartition qui avaient été inventées par les Allemands. Eh bien, ça n'a pas marché. Plusieurs pays sont complètement opposés à ça. La France n'a jamais été très, très partante. Des pays comme la Hongrie, la Pologne ont obstinément refusé, la plupart des pays d'Europe centrale. Et donc, plutôt que d'avoir ce système de juste répartition, on a ce système consistant à se dire il faut sélectionner les migrants, les filtrer, c'est l'expression qui a été utilisée, le filtrage aux frontières de l'Union, le plus possible à l'extérieur des frontières de l'Union. Et alors, pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment mis en œuvre le bilan est difficile à établir.
Dernière question pour vous. Une migration est un changement conséquent dans la vie d'un individu. Est-il possible pour un immigré de s'intégrer totalement dans son pays d'arrivée? Et comment mesure-t-on l'intégration des immigrés dans un pays?
Alors, oui, bien sûr, il est possible de s'intégrer et on peut s'intégrer sans nier sa culture d'origine, tout en gardant des liens avec sa culture d'origine. La mesure de l'intégration... Il y a une organisation internationale qui s'y est beaucoup intéressée, l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, qui a son siège à Paris. C'est un reste du plan Marshall et ça réunit tous les pays occidentaux, je dirais, de façon générale, et même quelques pays, il y a aussi le Japon, la Corée, le Chili, la Costa Rica, enfin le Mexique. Et donc, ils ont publié à plusieurs reprises une publication qui existe aussi en français, en anglais, qui est accessible en ligne. Trouver ses marques, les indicateurs d'intégration dans l'Union européenne, dans l'OCDE. Et 83 indicateurs sont utilisés pour mesurer l'intégration. Alors, par exemple, évidemment, il y a le taux d'emploi. Mais il n'y a pas seulement le taux d'emploi, il y a le fait que est-ce qu'on est employé à un niveau qui correspond à son diplôme. Si vous prenez la population française globalement, il y a peut-être 15% des gens qui ont un diplôme du supérieur qui n'exercent dans un métier qui ne correspond pas, qui correspond à un emploi de niveau moyen. Alors chez les immigrés, ce sous-emploi, le fait d'être employé à un niveau qui est inférieur à votre diplôme, c'est beaucoup plus important encore. Un exemple d'indicateur. Bien sûr, il y a avoir un logement autonome, bien sûr, il y a le niveau d'éducation, il y a le salaire, enfin, il y a plein d'éducations. Mais la mesure de l'intégration, c'est ça qui est important, ça ne consiste pas, ça ne peut pas consister à comparer à un instant T la situation de la population du pays et la situation des immigrés. Parce qu'en fait, l'intégration, c'est un processus qui prend du temps. Et donc, ce qu'il faut, c'est des mesures qui essaient de montrer comment, au fil du temps, au fil du décennie, avec l'âge, les populations se rapprochent ou pas. Est-ce qu'elles convergent ou est-ce qu'elles divergent, hein? Donc, c'est des mesures qui doivent être dynamiques, longitudinales, comme on dit dans le langage technique. Et en plus, il faut aussi, par exemple, les indicateurs de performance scolaire des enfants. eh bien, on essaie aussi de mesurer les choses, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire un diplôme équivalent des parents, en contrôlant un peu tout le contexte économique. Est-ce que les différences de performance qu'on observe entre la population native et la population immigrée, et leurs enfants, est-ce que ça se maintient ou pas? Est-ce que c'est lié à leurs origines ou est-ce que c'est lié simplement à leurs conditions sociales, le fait qu'elles n'ont pas les mêmes atouts que le reste des familles? Bon. Donc, mesurer l'intégration, c'est faire des comparaisons, mais des comparaisons dynamiques dans le temps et de comparaisons qui essaient de contrôler un peu un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer, par exemple, les performances scolaires ou la réussite professionnelle. Donc, alors, il y a des chercheurs plus avant-gardistes que moi qui sont même contre la notion d'intégration. Et c'est dû au fait que, quand vous faites une enquête, moi j'ai fait beaucoup d'enquêtes dans ma vie, j'ai travaillé à l'INSEE et à l'INED, l'Institut d'études démographiques, si vous faites une enquête sur l'intégration, vous ne pouvez pas utiliser le mot intégration. On ne demande pas aux gens s'ils sont intégrés. Parce qu'ils vivent très très mal cette demande, ils vivent cette interrogation comme une sorte de suspicion permanente, et le problème des immigrés, mais aussi de leurs enfants, et parfois ça rebondit jusqu'à la troisième génération, mais les gens qui sont originaires des départements d'outre-mer ont souvent la même expérience, la mesure de l'intégration, et c'est une espèce de suspicion, parce qu'on ne sera jamais assez intégré pour le français d'origine française. Il faut admettre que l'intégration puisse très bien aller de pair avec une connaissance, un entretien des relations avec le pays d'origine. Et je voudrais terminer là-dessus, c'est qu'on a maintenant une mesure très précise grâce à une enquête qui s'appelle Trajectoire et Origine, qui en est à sa deuxième édition. Il y a un site internet dédié. Et cette enquête a obtenu le droit, les auteurs de cette enquête ont obtenu le droit de poser des questions non seulement sur le pays de naissance des personnes interrogées, le pays de naissance de leurs parents, mais aussi le pays de naissance des quatre grands-parents. Ça, c'était une nouveauté en 2019-2020. Et il en ressort que 31% de la population adulte qui vit en France est liée à l'immigration sur une, deux ou trois générations. 31%, c'est énorme, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 31% de la population adulte vivant en France est soit elle-même immigrée, née à l'étranger, ayant franchi la frontière, etc., soit enfant de un ou deux immigrés, soit petit enfant de un, deux, trois ou quatre immigrés. 31%. La même enquête, la même, nous dit que seuls 5 ou 6% des adultes ont leurs quatre grands-parents immigrés. Il n'y a pas de contradiction entre les 31 et les 5 ou 6%. Ça veut dire que dans l'intervalle, il y a des unions mixtes, il y a des brassages de population. Alors, je dis souvent que, certes, ce n'est pas facile de percer le marché matrimonial français dès la première génération, mais à la deuxième, c'est déjà beaucoup plus facile. À la troisième, ça progresse encore énormément. Et donc, ça veut dire que, globalement, structurellement, c'est pas une idée comme ça de François Héran, c'est pas mes désirs pour des réalités. Structurellement, ce que veut dire ce contraste-là, c'est que les populations ne se séparent pas, elles se rapprochent. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe quand même dans la plupart des pays européens. En France comme ailleurs, on n'est pas plus fort ni plus faible qu'un autre pays dans ce domaine.
L'heure est déjà venue de nous quitter. Merci beaucoup, Monsieur Héran, pour toutes ces réponses.
Eh bien, écoutez, merci pour toutes ces questions que j'ai trouvées vraiment tout à fait intéressantes et auxquelles j'ai eu un grand plaisir à répondre.
Merci.
Quant à vous, chers auditeurs, nous vous souhaitons une bonne soirée. À bientôt sur BAC FM.